Chapitre 23. Conciliation. J'ai complètement oublié de vous parler d'un des talents de société de M. Finch, l'art de lire à haute et intelligible voix, dans lequel il était passé maître et dont il abusait pour torturer, toutes les fois que l'occasion s'en présentait, sa famille et ses intimes. Je ne vous détaillerai pas toutes les souffrances que nous faisait endurer cette terrible voix, tandis que son propriétaire se livrait tout entier au plaisir de l'écouter. Quand la rage de la lecture le prenait, il n'y avait pas moyen d'échapper au recteur. Sous le premier prétexte venu, il fondait sur nous, livre en main, nous faisait asseoir et se mettait à nous assourdir pendant des heures entières. C'était tantôt Shakespeare et Milton, ou les discours de Burke et ceux de Sheridan au Parlement. Mais quel que fût le morceau qu'il choisit, il criait et se démenait si fort en faisant la lecture qu'il finissait par écraser le malheureux auteur sous le poids de sa propre personnalité, au point que je vous avouerai que c'est à partir du moment où je l'ai entendu interpréter par M. Finch que datent mes premiers doutes sur le suprême génie de Shakespeare. C'est pour la même raison que j'ai voué une haine implacable à Burke et à sa ligne politique. Le soir où l'on s'attendait à voir arriver d'Amérique Nugent Dubourg et que nous désirions, Lucille et moi, rester seuls pour nous habiller et causer de la visite du frère d'Oscar, M. Finch fut saisi d'un de ses accès périodiques où il éprouvait l'impérieux besoin d'assommer sa famille. Cette fois, ce fut Hamlet qu'il choisit pour nous montrer sa belle voix. Il déclara préalablement que c'était dans le but spécial de me perfectionner dans la lecture des auteurs. Hélas, il me donna ses raisons pour en agir ainsi. « Ma chère dame, me dit-il, je vous ai entendu par hasard faire la lecture à Lucille. Ce n'était vraiment pas mal, mais vous me permettrez, à moi qui possède une grande expérience dans l'art de lire à haute voix, de vous donner de bons conseils. Je vais vous lire quelques passages pour vous servir de modèle. Oui, madame Finch, je vais donner à madame Pratolungo quelques exemples. » Faites bien attention, je vous prie, aux pauses et à la manière dont je rends la fin de chaque vers. Ceci t'intéresse, Lucille, car je pense que tu attaches quelque importance à ce que madame Pratolungo se perfectionne. Ne vous en allez pas, je vous prie. Lucille et moi, nous étions à titre d'invités à la table du recteur. C'était un de ces soirs où, quittant la partie antique du presbytère, nous allions régulièrement prendre place à ce que M. Finch se plaisait à appeler le repas du soir du pasteur. M. Finch nous tenait donc, sa femme, Lucille et moi. Un rictus de joie sauvage vint contracter ses traits lorsqu'il nous vit toutes trois assises au bout de la salle et qu'il se prépara à ouvrir le feu sur nous. C'est ainsi qu'il commença. Premier tableau. Hamlet. Acte premier. Le décor représente une plateforme devant le château d'Elseneur. Francisco, ou plutôt M. Finch, est à son poste. Bernardo, M. Finch, entre et s'avance vers lui. Qui va là? Arrête et dis-moi qui tu es. Ici, Mme Finch se détire en allaitant le baby et tâche de se donner l'air de jouir de cette petite fête intellectuelle. L'entretien qui a lieu entre Bernardo et Francisco est rendu par le bourdonnement bruyant du recteur. Horatio et Marcellus, tous deux représentés par M. Finch, entrent sur la scène. « Halte là, qui vive ? Amis et sujets du Danemark !» Ici, je commence à sentir un mal que je ressens toujours dans les jambes pendant la lecture de Shakespeare par le recteur et qu'instruite par une expérience amère, j'ai nommé les fourmis d'Hamlet. Bernardo, Francisco, Horatio et Marcellus causent ensemble de la voix de basse de M. Finch. Le spectre du père d'Hamlet apparaît. Le recteur fait une pause solennelle pendant laquelle on entend distinctement téter le baby de Mme Finch qui jouit toujours de la petite fête intellectuelle. Mes démangeaisons me reprennent dans les jambes et se communiquent à celles de Lucille. Marcellus Finch continue. « Toi qui es instruit, parle-lui, Horatio !» Bernardo Finch l'encourage. « Regarde, ne dirait-on pas le roi ?» Ici, Lucille se mêle au dialogue. Papa, j'en suis bien fâchée, mais j'ai eu la migraine toute la journée. Permettez-moi d'aller faire un tour au jardin. » Le recteur fait une autre pause solennelle et regarde fixement sa fille qui sort. Horatio examine le fantôme et continue en répondant à Bernardo. « En effet, il lui ressemble si étonnamment que j'en suis confondu. » À ce moment, le bébé prouve par des signes indiscutables qu'il a absorbé plus de lait qu'il ne lui en fallait et Madame Finch cherche son mouchoir. Quant à moi, je saisis cette occasion de me détirer un peu les jambes et je retrouve le mouchoir. Monsieur Finch s'arrête, fait les gros yeux. Il arrive au second tableau. Le roi, la reine, Hamlet, Polonius, Laerte, Voldemort et les seigneurs, tous représentés par Monsieur Finch avec son éternel bourdonnement. Je souffre toujours des jambes. Troisième tableau. Laerte et Ophélie entrent. Tous deux sont recteurs de Dymchurch et possèdent de magnifiques voix de basse taille. Ils sont tous deux fortement grêlés, hauts d'un mètre et demi, et portent des cravates d'un blanc douteux. Madame Finch et le baby s'endorment d'un profond sommeil. Quant à moi, je souffre si horriblement dans les jambes que je fais des vœux pour qu'un habile chirurgien vienne me les couper. Monsieur Finch continue, avec un plaisir toujours croissant et d'une voix de plus en plus caverneuse, jusqu'au quatrième tableau. Hamlet, Horatio, Marcellus entrent sur la scène. Bonté divine, qu'entends-je? Viendrait-on à notre secours? J'entends un bruit de pas dans le vestibule. Il n'y a plus aucun doute. Madame Finch se réveille, les entend aussi et s'en félicite. Quant au révérend Hamlet, il est trop absorbé par le son de sa propre voix pour les entendre. Il continue. « La bise vous saisit, il fait bien froid. » La porte s'ouvre et le recteur s'aperçoit qu'un courant d'air arrive juste à point comme dans le drame. Il jette un regard sur l'intrus. Si c'est un domestique, qu'il tremble. Mais non, Dieu soit loué, ce sont des visiteurs. « Bonjour, messieurs, soyez les bienvenus, car grâce à vous, nous n'aurons plus d'Hamlet ce soir. » Deux nouveaux personnages entrent et réclament notre attention. Oscar nous présente son frère Nuggins, qui arrive d'Amérique. Ce qui nous frappa tous d'étonnement en les voyant entrer, ce fut la ressemblance extraordinaire des deux frères. Ils avaient tous deux la même taille et les mêmes allures, leur figure et leur voix étaient identiquement pareilles. Quand Oscar souriait, le même sourire reparaissait sur les lèvres de Nugent. Nugent avait les mêmes gestes, moitié anglais, moitié étranger qu'avait Oscar, et pour compléter la ressemblance, Nugent avait ce teint magnifique, un peu plus brun peut-être, que son frère venait de perdre à tout jamais. La seule chose qui put les distinguer l'un de l'autre, et que Lucille ne pouvait pas voir, c'était ce terrible contraste de teint. Ce fut Nugent qui prit la parole. « Je suis charmé de vous voir, Madame Finch, dit-il. Il y a bien longtemps que je désirais faire votre connaissance. Madame Finch, je vous remercie de la bonté que vous avez eue pour mon frère. Est-ce à Madame Pratolung que j'ai l'honneur de parler? Oui, alors veuillez me permettre de vous serrer la main. Inutile de vous dire que j'ai entendu souvent parler de votre illustre époux. Ah, qu'avons-nous là? Un bébé? Est-il à vous, Madame Finch? Est-ce un garçon ou une fille? Ma foi, si en ma qualité de célibataire j'ai le droit de me prononcer, je dirais que voilà un bien bel enfant. » Et il se mit à rire au nourrisson, absolument comme s'il eût été père de famille, et fit claquer gaiement ses doigts. Le pauvre Oscar tourna vers moi sa figure qui triomphait et qui semblait dire « Voyez comme il fascine les gens à première vue, ne vous l'avais-je pas dit ?» Il avait raison, son frère était irrésistible. Il ressemblait tellement à Oscar lorsqu'il restait tranquille et sans parler, et de notre côté, il lui ressemblait si peu sous certains rapports que je ne puis mieux décrire Nugent qu'en disant que c'était son frère perfectionné. Il avait, par exemple, cet aplomb naturel et cette entrée du gentleman qu'on ne trouvait pas chez Oscar. Puis un tact exquis. Il savait aimer les enfants et payer un tribut à la mémoire de mon illustre défunt. Il n'avait pas été un instant parmi nous qu'il avait déjà pour lui ma sympathie et celle de Madame Finch. Il laissa le bébé et, se retournant, il indiqua du doigt le Shakespeare tout ouvert sur la table. « Monsieur Finch, vous étiez en train, dit-il, de lire Shakespeare à ces dames. Je crains bien de vous avoir dérangé en entrant. »« N'en parlons pas, je vous en prie, mon cher monsieur, » lui répondit le recteur avec la politesse majestueuse qui lui était habituelle. « Je remets à une autre fois cette lecture que j'ai l'habitude de faire à mon petit cercle. En ma double qualité de ministre et d'admirateur de la muse, j'ai longtemps cultivé l'art de lire à haute voix les auteurs. « Pardon, cher monsieur, si je vous interromps pour vous dire que vous l'avez cultivé tout de travers. » Monsieur Finch s'arrêta, atterré de l'audace de ce jeune présomptueux qui se permettait de lui couper la parole, à lui, le recteur, dans son propre salon, pour formuler son opinion. Cet homme avait l'audace de lui dire là, devant le Shakespeare ouvert sur la table, qu'il ne se connaissait pas en lecture. « Oh, je vous ai bien entendu en entrant !» poursuivit Nugent avec un admirable sang-froid et toujours avec la plus grande politesse. « Tenez, je vais vous montrer comment vous lisiez. » Et prenant le Shakespeare, il se mit à déclamer les premières lignes du quatrième tableau où Hamlet s'écrit « La bise vous saisit, il fait bien froid !» en imitant parfaitement M. Finch. « Ce n'est pas, reprit-il, sur ce ton-là que doit parler Hamlet. » Un homme dans sa position ne ferait pas remarquer qu'il fait froid en enflant la voix de cette façon. Et d'abord, qu'est-ce que Shakespeare? Un poète qui étudie de près la nature et qui la rend invariablement avec fidélité. Dans quelles conditions se trouve Hamlet au moment où il s'attend à voir apparaître le fantôme de son père? Il a peur et il a froid. Eh bien, on doit le faire parler comme nous parlerions si nous avions peur et si nous avions froid. Tenez comme ceci, rapidement et sans emphase. L'air est glacé, il fait bien froid. Ici, Hamlet s'interrompt et frissonne. Brum, il fait bien froid. Voilà comment on doit lire Shakespeare. Monsieur Finch, se redressant de toute sa petite taille, frappa un grand coup de la paume de la main sur les feuillets du livre et s'écria « Permettez-moi, monsieur, de vous dire que… » Nugent l'interrompit, plus gaiement encore qu'auparavant. Vous n'êtes pas de mon avis, je le vois bien. Inutile de le nier. Je ne sais si vous êtes comme moi, mais quand j'ai une opinion, je suis le plus entêté des hommes, et ce serait en pure perte que vous essayiez de me convaincre. Tenez, par exemple, voyez cet enfant. Il se tourna subitement vers le baby en s'adressant à Madame Finch. « Je me permettrai, madame, de vous faire observer qu'il n'y a pas de pays au monde où l'on habille les enfants d'une manière aussi absurde qu'en Angleterre. Quelles sont les trois conditions essentielles au développement de votre charmant bébé ? Téter, dormir, grandir. Tenez, en ce moment, que fait-il ? Il ne tète pas, il ne dort pas, donc il grandit, et de toutes ses forces encore. Mais que faut-il lui donner pour grandir en toute liberté ? Qu'il puisse se donner du mouvement, agiter bras et jambes à son gré. Pour les bras, passe, il les a libres. Mais vous emprisonnez ses petites jambes en l'affublant d'une robe trois fois trop longue et vous le mettez dans l'impossibilité de les exercer. Comment voulez-vous qu'avec cet absurde vêtement, il puisse les lever en l'air comme il lève les bras? Ce qui devrait être une jouissance pour lui devient un effort pénible. C'est le comble de l'absurdité. Je me demande à quoi songent les mères et pourquoi elles ne se servent pas de leur bon sens. Croyez-moi, Madame Finch, débarrassez-moi cette jeune victime de la routine de ce qui embarrasse ses mouvements. Mettez-lui un jupon court et laissez-le agiter bras et jambes en toute liberté. Madame Finch restait tout ébahie et relevait les longues jupes de l'enfant en jetant sur Oscar un regard de supplication. Elle ouvrit la bouche comme si elle allait parler, mais changeant d'avis, elle tourna vers son mari ses yeux larmoyants qui semblait lui demander de venir à son secours. M. Finch en profita pour tenter de rétablir son autorité chancelante en raillant lourdement Nugent. « Vous me permettrez de vous faire observer, Monsieur Dubourg, que vos observations auraient beaucoup plus de poids si elles venaient d'un père de famille. Je vous dirai donc que ce sont là les conseils d'un célibataire, n'est-ce pas ? » reprit Nugent, complétant le reste de la phrase du recteur. « Non, non, Monsieur Finch, vous n'allez pas nous en faire à croire. Le docteur Johnson s'est chargé jadis de réfuter à tout jamais l'objection que vous me faites. « Monsieur, répondit-il à quelqu'un qui lui tenait à peu près le même raisonnement que vous, on peut faire des reproches à un menuisier pour une table mal faite sans savoir en faire une soi-même. Eh bien, j'imite Johnson et je vous réponds que je puis indiquer un défaut dans le vêtement d'un bébé sans être père de famille. Quoi ? Vous doutez encore ? Soit, je vais vous donner un autre exemple à l'appui de mon dire. Prenons la pièce où nous sommes. Eh bien, d'un seul coup d'œil, je m'aperçois que les fenêtres en sont mal disposées et qu'elle n'est pas suffisamment éclairée. Cependant, je ne suis pas entrepreneur de bâtisse. Comment ? Cela ne vous suffit pas, monsieur Finch ? Eh bien, prenons un troisième exemple. Quel est cet imprimé sur la cheminée ? Un papier d'imposition. Des impôts ? Bon, voilà ce qu'il nous faut. Vous, monsieur, vous n'êtes ni ministre des Finances, ni membre de la Chambre des communes. Eh bien, est-ce que ça vous empêche de former vos appréciations sur les taxes que vous payez ? Faut-il que nous soyons, vous et moi, membres du Parlement pour nous apercevoir que la vieille constitution britannique est en train de râler ? Tandis que la jeune et vigoureuse République, ajoutai-je, en profitant, selon mon habitude, de toutes les occasions de citer le programme Pratolungo, aspire la vie à plein poumon. À peine avais-je dit ces paroles que Nugent se tourna vers moi pour me remettre à ma place, comme il avait déjà fait pour le recteur sur la lecture d'Hamlet et pour sa femme sur l'art d'élever les enfants. « Vous vous trompez complètement, madame, » me répondit-il d'un ton absolu. « Votre jeune république n'est que l'enfant rachitique de la famille politique qu'il faut abandonner, car vous ne réussirez jamais à en faire une femme. » Je me récriai de même que le recteur, mais inutilement. J'en appelais avec indignation à la mémoire de mon illustre époux. C'était un honnête homme, me répondit-il, et moi-même, libéral avancé, je lui donne toute mon estime. Mais il ne s'en trompait pas moins. Tous les républicains sincères se trompent comme lui. Ils croient que l'amour de la chose publique existe en Europe, tandis que c'est chez les jeunes populations, dont il est l'apanage exclusif, qu'il faut aller chercher ce sentiment généreux. Dans notre vieille Europe égoïste, c'est l'intérêt particulier qui l'a remplacé. Quand votre mari préconisait la République, c'était dans l'espoir que, par son avènement, elle élèverait le niveau de la nation. Bah, commencez par me prouver que la République peut m'élever jusqu'à sa hauteur, et je vous écouterai. Prouvez à chacun qu'il en sera ainsi, si vous voulez que les institutions républicaines réussissent en Europe. L'intérêt particulier, voilà le mobile qu'il faut faire agir. L'opinion qu'il émettait ainsi m'indigna. « Mon illustre époux, repris-je, serait mort, continua-t-il, plutôt que d'en appeler au bas instinct de l'humanité. Voilà où gît l'erreur, et c'est ce qui a rendu tous ses efforts stériles. Et voilà aussi pourquoi j'appelle la République l'enfant rachitique de la famille politique. Quod erat demonstrandum, ajouta-t-il avec un sourire et un geste qui semblait dire « Je vous ai enfin mis tous trois à la raison, mais je suis content de vous et de moi. » Que lui répondre ? Comment résister au sourire charmant qu'il nous adressa après avoir ainsi parlé ? Malgré le jugement qu'il venait de porter sur mes opinions, je n'avais pas le courage de lui en vouloir. Quant à M. Finch, il restait assis dans un coin, gonflé d'indignation, et tâchant de digérer le mieux possible la découverte qu'il y avait de par le monde un autre homme ayant de lui-même une aussi excellente opinion et une confiance aussi inaltérable que le recteur de Dymchurch. Oscar, qui jusque-là s'était contenté d'écouter son frère avec admiration, voulut placer un mot. Il s'approcha de moi et me demanda où était Lucille, en ajoutant qu'un domestique lui avait dit qu'elle était au presbytère et qu'il brûlait du désir de lui présenter son frère. Celui-ci, entourant de son bras le cou d'Oscar, le serra affectueusement en s'écriant « Et moi aussi, mon bon Oscar, j'ai le désir de voir Mademoiselle Finch. Elle vient de sortir pour aller faire un tour au jardin, » dis-je à Oscar, qui sortit pour l'aller chercher. À ce moment, un domestique vint prévenir Madame Finch qu'on l'a demandé. Elle se leva et Nugent la supplia en plaisantant de se débarrasser de ses préjugés et de considérer avec impartialité la question des robes courtes et des robes longues. M. Finch se fâcha en voyant Nugent revenir à la charge. Il se leva pour suivre sa femme. « Vous verrez vous-même, M. Dubourg, » répondit-il d'un ton sévère, « quand vous serez marié, qu'il est bon de laisser les mères soigner leurs enfants comme elles l'entendent. « Pardon, monsieur Finch, » lui répondit Nugent, toujours souriant. « Mais je vous ferai observer que vous êtes encore dans l'erreur. Un homme marié juge tous les autres d'après lui-même. » Il avait suivi, en parlant ainsi, le recteur jusqu'à la porte. Quand celui-ci fut sorti, il se tourna vers moi. « Maintenant que nous voilà seuls, me dit-il, je veux profiter de l'occasion pour vous parler de mademoiselle Finch. Oscar m'a fait connaître le malheur qui a frappé sa fiancée sans me donner de détails. Je me sens pour elle un intérêt tout particulier. Combien y a-t-il de temps qu'elle est aveugle ?»« Elle a perdu la vue à l'âge d'un an, » lui répondis-je. « Est-ce le résultat d'un accident ?»« Non, monsieur. » « Est-ce à la suite d'une maladie ?» Je m'étonnais de sa curiosité. « Tout ce que je sais, lui répondis-je, c'est que le mal est venu sans qu'on s'y attendît et d'une cause demeurée inconnue. » Il avança sa chaise familièrement près de la mienne et me demanda l'âge de Lucille, ce qui redoubla mon étonnement. Je le lui fis comprendre par le ton de ma réponse. J'ai, me répondit-il, mes raisons pour éviter, dans les circonstances actuelles, toute allusion à l'infirmité de mademoiselle Finch en présence de mon frère et des membres de sa famille. Je veux attendre encore un peu pour leur en parler sérieusement. Avec vous, c'est différent et je puis vous poser ces questions. A-t-on essayé de la guérir lorsqu'elle a perdu l'usage de ses yeux ? Je ne l'ai jamais demandé à sa famille. Et puis, il y a si longtemps de cela... « Si longtemps ? » dit-il en répétant mes paroles et en réfléchissant un instant. Ainsi, elle s'est résignée à son état et tous ceux qui l'entourent se sont habitués à l'idée de l'avoir aveugle pour le reste de ses jours. Au lieu de lui répondre, je lui posai à mon tour une question, tandis que mon cœur battait plus vite, sans que je puisse m'expliquer pourquoi. « Voudriez-vous me dire, monsieur Dubourg, quelles sont vos pensées à l'égard de Lucille ?» « Je pense, madame, me répondit-il, à une idée qui m'a été suggérée par un ami que j'ai rencontré en Amérique. Est-ce cet ami dont vous parliez dans votre lettre à Oscar et que vous proposiez de lui présenter ainsi qu'à Lucille ?»« Oui, c'est cet Allemand dont j'ai parlé. »« Quelle est sa profession ?» Nugent me regarda attentivement et réfléchit avant de me répondre. « C'est, me répondit-il enfin, l'oculiste le plus savant et le plus renommé que l'on connaisse. » L'idée de Nugent se révéla soudain. « Bonté divine, m'écriai-je, seriez-vous assez fou pour espérer qu'on puisse rendre la vue à Lucille après 20 ans de cécité complète ?» Au lieu de me répondre, il leva la main pour me recommander le silence. La porte s'ouvrit et Lucille entra avec Oscar.